donc, dans une petite seconde, on va démarrer la prédication, mais je voulais aussi vous dire, vous voyez derrière moi les panneaux, donc ça fait partie d'une exposition sur la Bible, donc à rappeler que, voilà, cette exposition est là, présentée, disponible, si ça vous intéresse, si vous voulez prendre rendez-vous pour visiter l'Expo Bible, et donc simplement me contacter, ok? Donc aujourd'hui, nous allons finir, je ne suis pas sûr que c'est le bon mot, le sujet, l'appel au service. Je ne suis pas sûr si je devrais dire finir, parce que à partir de la semaine prochaine, on va parler de l'appel au pastorat, l'appel du pasteur, ok? Mais aujourd'hui, on parle de toutes les autres choses, ok? Donc, je voudrais lire dans Matthieu, chapitre 4. On va lire Matthieu chapitre 4, verset 17 au verset 25. On va sauter le verset 24 et partie du verset 25 simplement pour question de gagner du temps. Matthieu chapitre 4, verset 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire : Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit : Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. De là, étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leurs filets. Verset 22. Il les appela, et aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père et le suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Et puis on saute juste pour la première partie du verset 25. Une grande foule le suivit. Et puis je voudrais vous lire Éphésiens chapitre 2, verset 10, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, il y a quelques semaines, le frère Pierre a présenté plusieurs messages sur les divers appels. Et il y a de nombreux appels dans la Bible, en spécialement dans le Nouveau Testament. Donc aujourd'hui, je vais résumer brièvement certaines parties des messages de Pierre. Mais le message principal aujourd'hui focalisera sur l'appel au service chrétien, soit bénévole, soit à plein temps. Commençons avec le salut. L'appel le plus important, c'est le salut. Le Seigneur appelle chacun et chacune au salut. C'est Jésus lui-même qui vous appelle au salut par la conviction de son Saint-Esprit. Le Saint-Esprit travaille, il agit à travers sa parole pour que Dieu puisse parler à nos cœurs. En répondant à l'appel au salut, c'est-à-dire en acceptant le Seigneur Jésus-Christ comme votre sauveur, vous recevez un héritage important. Vous êtes appelé, dans cet héritage, vous êtes appelé à faire partie du peuple de Dieu. Vous êtes appelé à communier avec le Seigneur Jésus-Christ, à participer dans son futur royaume, à partager la gloire du Seigneur Jésus dans votre héritage céleste Et bien sûr, vous êtes appelés à la vie éternelle. N'oubliez pas que l'appel au salut est accompagné d'un appel à la vie chrétienne. Jésus délivre les croyants du royaume des ténèbres et il nous fait entrer dans son royaume glorieux. Ainsi, Dieu nous appelle à développer un caractère chrétien. Il nous appelle à être saints. Il nous appelle à la paix fraternelle en Christ. Il nous appelle des fois à la souffrance pour Christ. Dieu nous appelle à bénir les méchants par la prière et les actes bienveillants, de bienveillance. Et enfin, Dieu nous appelle à servir les frères et sœurs. Ceci est le sujet aujourd'hui, le service, servir le Seigneur. Nous voyons par ces propos que je viens de résumer que le salut est un appel à un héritage céleste futur, mais aussi un appel à une vie chrétienne maintenant, ici-bas. Attaché à ce double appel, c'est-à-dire attaché à cet appel au salut puis à la vie chrétienne, il y a également un troisième appel, un appel au service d'après la volonté du Saint-Esprit. Ce n'est pas nous qui choisissons, c'est Dieu qui choisit. Dieu vous a sauvé pour servir. C'est tellement encourageant de savoir que vous servez Dieu là où vous êtes tous les jours. Eh bien, vous servez Dieu selon vos capacités, selon vos dons, selon vos talents. Je répète, vous servez Dieu là où vous êtes tous les jours. C'est pour cela que chacun, chaque chrétien, doit veiller à être honnête dans toutes les circonstances, car vous servez Dieu. Vous donnez un témoignage toujours vis-à-vis de Dieu. Il est honorable de choisir à faire ce qui est droit et juste. Ne gâchez pas vos opportunités. Faites confiance à Dieu. Je me souviens d'un jeune qui désirait servir Dieu. Ça fait plein d'années. Mais ce jeune n'arrivait pas à faire confiance à Dieu dans les choses de la vie. Il m'a dit, « Dieu ne pourra pas pourvoir pour ma vie. » C'est-à-dire le financement de sa vie. Et malheureusement, ce jeune n'a jamais avancé dans sa vie de chrétien, car il n'arrivait pas à faire confiance à Dieu. Mes amis, rappelez-vous toujours, le juste vivra par la foi. Dieu peut tout faire selon son plan, selon sa volonté. Il faut que vous lui fassiez confiance. Le juge vivra par la foi, selon la confiance. Pendant le Moyen Âge, l'Église catholique enseignait que seuls les prêtres et religieux pouvaient servir Dieu. La Réforme a mis en relief le fait que tous les chrétiens servent Dieu dans les détails de la vie. Mais malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, beaucoup d'évangéliques adoptent l'idée que seul le pasteur peut servir Dieu. C'est faux. Or, quand vous avez accepté l'appel au salut, vous avez reçu un don ou plusieurs dons pour servir Dieu et l'Église. Quand je dis l'Église, je veux dire la communauté chrétienne, le corps local de Christ. En faisant mon étude pour ce message, j'ai constaté que tous les auteurs baptistes rejettent l'idée que seuls les pasteurs ont une vocation. mot vocation, ça veut dire appel. La vérité biblique, c'est que tous les chrétiens sont appelés à servir, à remplir un ou plusieurs ministères. Les chrétiens bibliques sont laïcs. Nous n'avons pas de clergé ou de personne à révérer. Lorsque Dieu nous appelle, il nous arme pour le ministère en question. Ce sont les dons du Saint-Esprit. Dons du Saint-Esprit, du mot charisme. Les dons du Saint-Esprit. Donc, on va regarder dans Romains, chapitre 12. Romains, chapitre 12. Et nous allons lire les versets 3 à 8. Romains, chapitre 12. Et les versets 3 à 8. Romains, chapitre 12, verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous, donc ce n'est pas au pasteur, hein, ou au diacre, ou aux hommes, hein, c'est à chacun de vous, de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun d'entre nous. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous, qui sommes plusieurs donc dans le corps de Christ, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. On est liés ensemble. Puisque nous avons des dons différents, n'est-ce pas? Selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don, donc il va donner une liste ici, ce n'est pas une liste compréhensive, c'est une liste partielle, il y a d'autres listes dans la Bible. Que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Frères et sœurs, je vais répéter le verset 5. Nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Donc, selon la grâce que Dieu a donnée à chacun. Dans ces versets, Paul a mentionné quelques dons et talents. Donc, comme je vous ai dit, ce ne sont pas les seuls. Il y a d'autres dans d'autres passages du Nouveau Testament, mais concernant ce qui est dans cette liste, on voit prophétie, l'idée d'annoncer le message ou la parole de Dieu, ministère, donc un service quelconque, conseil, voilà. Donc, enseignement, exhortation, donc encouragement, conseil, donateur, donc là c'est la générosité, présidente. Donc, quand on parle de président, ça peut être diverses administrations, par exemple, directeur d'une mission. Il fait une direction, il fait une présidence. Et puis, la pratique de miséricorde, donc là c'est divers services auprès des malades ou des personnes en difficulté. Donc, vous allez vous souvenir, avant qu'on avait la médecine moderne, les hôpitaux étaient entre les mains de qui? Les religieuses. C'était une fonction chrétienne. Hein? Paul dit dans Éphésiens chapitre 2, verset 10, que nous sommes, donc encore, chaque chrétien parmi nous, nous sommes son ouvrage, l'ouvrage de Dieu, ayant été créé en Jésus-Christ. Donc, il dit créé en Jésus-Christ, ça invoque notre nouvelle naissance. Quand on a cru en Jésus-Christ, on est devenu une nouvelle création, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, avec un objectif, des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ce n'est pas afin que nous les
ignorants.
Ça, c'est pas le point. Afin que nous les mettions en pratique. Ces œuvres sont des œuvres bénéfiques de bienfaisance. Dieu attend ces œuvres-là chez ses enfants. Dieu attend quelque chose de chacun d'entre nous. Attention, l'appel au salut ne change pas votre condition sociale. Il n'y a pas d'évangile de santé et de prospérité comme quelques-uns prétendent faussement. Cela est un faux message. Car Dieu dit, par exemple dans 1 Corinthiens chapitre 7 et verset 10, que chacun frère demeure devant Dieu dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. Et puis il dit que chacun demeure dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. Mes amis, Dieu veut d'abord que vous acceptiez la vie que vous avez aujourd'hui. Rendez gloire à Dieu, faites-lui confiance et soyez reconnaissant. Puis, si Dieu veut changer vos circonstances, vos conditions, eh bien, Dieu le fera. Si Dieu vous ouvre une porte pour améliorer votre vie, acceptez-la. Traversez la porte. Quelle opportunité! Donc, regardons dans 1 Corinthiens, chapitre 7, on va lire les versets 20 à 24. Premier épître aux Corinthiens, chapitre 7, versets 20 au 24. 1 Corinthiens 7, 20. Que chacun demeure dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé, c'est-à-dire quand il est appelé au salut. As-tu été appelé étant esclave? Ne t'en inquiète pas. Mais si tu peux devenir libre, donc améliorer votre condition sociale, profitez-en plutôt. Car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur, c'est-à-dire il est libre dans son esprit. De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. Il est au service de Christ, sous ordre de Christ. Vous avez été racheté à un grand prix. C'est quoi le prix? C'était la mort du Seigneur Jésus sur la croix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Vous appartenez à Jésus. Que chacun, frère, demeure devant Dieu dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. Le fait que l'on soit esclave ou marié à un incroyant pourrait signifier, je ne dis pas que ça signifie ça, mais ça pourrait signifier que Dieu vous a appelé à un ministère auprès de cette personne ou de ceux qui vous maltraitent. Rappelez-vous que Dieu nous appelle aussi à la souffrance et à bénir les méchants. L'époux ou l'épouse chrétienne mariée à un non-converti doit comprendre que Dieu lui a confié un ministère envers son époux. Nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 7 encore, les versets 16 à 17. Car que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari? Ou que sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme? Donc, Dieu vous a peut-être appelé à devenir le moyen, je dis peut-être, hein, le moyen du salut pour votre conjoint. On continue le texte. Seulement que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. C'est ainsi que je l'ordonne dans toutes les églises. Donc, il dit la même chose dans toutes les églises. Dans Romains chapitre 8, verset 28, nous lisons, nous savons du reste, donc en dépit de toutes les autres choses, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Romains chapitre 8, verset 28. Le point, frères et sœurs, c'est que Dieu a un plan pour chacun de nous. Dieu a donc un plan pour votre vie, un plan qui prend en compte votre situation actuelle. Puis il faut noter en passant, parce que c'est écrit dans la Bible, c'est le sujet des appels, que certaines personnes sont appelées à l'état célibataire. C'est ce que Paul appelle un don particulier dans 1 Corinthiens chapitre 7 et dans versets 7, 8 et 17. Donc, le sujet global, c'est mariage. Mariage, donc les gens sont soit mariés ou soit voulant être mariés, soit pas mariés parce qu'ils ne veulent pas être mariés. Je voudrais que vous, que tous les hommes fussent comme moi, donc c'est-à-dire célibataires. Mais chacun tient de Dieu un don particulier. L'un d'une manière, l'autre d'une autre. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis que il leur est bon de rester que moi, c'est-à-dire célibataire. Seulement que chacun, donc verset 17, seulement que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu, c'est ainsi que j'ordonne dans toutes les églises. Donc, les chrétiens partagent un certain nombre de services, de dons, de capacités. Et donc, je vais donner une petite liste des dons généraux que peuvent faire tous les chrétiens. OK? Par exemple, ce n'est pas des obligations, mais que peut faire selon que Dieu vous donne l'opportunité et que vous avez la capacité. L'hospitalité. L'hospitalité, ça fait partie de générosité, donc libéralité, et de miséricorde. L'hospitalité, le secours, la prière, la générosité, l'expression de la foi ou les expressions de foi, le témoignage et l'évangélisation. Ce sont des choses que tous les chrétiens peuvent faire. Donc, au-delà des divers appels mentionnés auparavant, dans les choses que Pierre avait dit dans les messages précédents, vos dons, vos talents, vos conditions sociales de base, votre état de mariage ou de célibataire, et puis les dons généraux, au-dessus de ces choses-là, certains frères et sœurs sont appelés en plus à un service chrétien, soit intermittent, ou même à un service chrétien à plein temps. Mais avant d'entrer dans le sujet, il faut reconnaître que, à la base, Jésus veut que les chrétiens, donc chaque chrétien individuellement, soit un disciple. Hein? C'est important de reconnaître que Jésus veut que vous soyez son disciple. Jésus a commencé en appelant ses disciples. Nous l'avons déjà lu tout à l'heure, au début du message, il a dit « Suis-moi ». Les disciples se sont donnés entièrement à Jésus et ils l'ont suivi partout. Nous ne voulons peut-être pas entendre ces mots que Jésus voudrait que vous le suiviez. Hein? Nous ne voulons pas l'entendre. Mais c'est la réalité. C'est que Jésus appelle tous les croyants à être ses disciples, à le suivre. La question, êtes-vous en train de suivre Jésus? Je n'ai pas dit, êtes-vous tous missionnaires, quelque chose comme ça, ce n'est pas la question. J'ai dit qu'il veut qu'on soit là où on est, dans notre condition sociale, dans notre vie quotidienne. On vit pour Jésus, on vit honnêtement, on a un témoignage, on représente Dieu. Êtes-vous en train de suivre Jésus? Ou, par hasard, êtes-vous sur une autre route? Vous faites erreur si vous cheminez indépendamment de Jésus. Je ne suis pas chrétien, bien sûr. Le chemin de Jésus, avec Jésus, est de loin le mieux. Parmi les foules de disciples qui suivaient Jésus, hein, vous vous souvenez, on a lu ça tout à l'heure, qu'il y avait des foules qui suivaient Jésus, eh bien, un certain nombre de personnes ont été sélectionnées pour faire partie d'un groupe temporaire, hein, intermittent, de 70 évangélistes. On va lire dans Luc chapitre 9. Et on commence avec le dernier verset du chapitre, parce que vous vous souvenez bien que dans l'original, il n'y avait pas les chiffres de chapitre et les chiffres de verset. Okay? Donc on commence avec Luc chapitre 9, verset 62. Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Vous imaginez bien, une personne est en train de faire son agriculture, il avance, et pour regarder en arrière, il doit s'arrêter. Ok? Chapitre 10, verset 1. Après cela, le Seigneur désigna encore, donc il y avait déjà les 12, maintenant il y a encore 70 autres disciples, et il les envoya deux à deux devant lui dans toute la ville et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il lui dit, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Notez, en premier, que Jésus a besoin des ouvriers. À réfléchir à ce sujet, parce que en France, on a besoin de beaucoup d'ouvriers. On n'a pas beaucoup d'ouvriers, on a beaucoup, besoin de beaucoup plus. Et donc, Jésus demande, il lui donne le devoir de prier pour plus d'ouvriers, plus de serviteurs de Dieu. Il faut noter aussi que c'est parmi les disciples que Jésus a sélectionné les 70 personnes pour participer dans cette œuvre importante temporaire. Car ils étaient déjà en marche avec Jésus. Il y avait peut-être quelques disciples qui étaient à la maison, qui étaient peut-être allés en vacances, qui étaient ici, qui sait. Mais Jésus a choisi 70 personnes qui étaient en marche avec lui. Donc je vais vous donner une liste de services intermittents et bénévoles pour les chrétiens, en plus des gens, des dons généraux que je vous ai donnés tout à l'heure. D'accord? Donc, musiciens. Hein? Merci pour la visite. Musiciens, écrivains, rédacteurs d'ailleurs aussi. Hein? Faire le ménage, enseignement, aide informatique, comptabilité. On a besoin de comptables, hein? Conseil, même avocat protecteur du christianisme. Il n'y a pas beaucoup dans la France. Donc il y a des choses que les chrétiens peuvent faire comme un service particulier, mais pas en plein temps, mais ici et là, de temps en temps. Peut-être Dieu vous appelle à quelque chose de spécial. Il existe de plus des ministères spécifiques dans cette liste des choses, mais je les ai mis à part parce qu'ils sont plus spéciales, donc c'est des ministères spécifiques. Donc, envers donc, les enfants, les jeunes, les universitaires, les jeunes adultes, les jeunes mariés, etc. Il y a bien d'autres choses que les chrétiens peuvent faire aussi. Laissez-vous diriger par Dieu, c'est pas moi qui vous dis ça, ce que vous devez faire. Laissez Dieu vous diriger dans le service qu'il a prévu pour vous. Et la réalité, c'est que plusieurs de ces services intermittents ou temporaires, bénévoles, pourraient, selon la volonté de Dieu, devenir plus tard des ministères à plein temps. Alors, il faut bien observer la méthode d'apprentissage. Donc, le mot « disciple », le plus proche mot, c'est apprenti. Hein? Donc, la méthode d'apprentissage que Dieu utilise. Quiconque met
la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Entre autres choses, ce verset veut dire que la personne sans activité chrétienne, cette personne n'est pas utile pour Dieu, n'est pas utile à Dieu. Dieu se sert de celui qui avance sur la route. Jésus a appelé les 12 apôtres parmi ses disciples. L'appel aussi de Paul et de Barnabas pour être missionnaires était semblable. En Actes 13, nous lisons, pendant qu'ils servaient le Seigneur, donc voilà, Paul et Barnabas servaient le Seigneur, et pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Partir quoi? Partir sur la mission pour évangéliser les païens. Barnabas et Saul ou Paul servaient Dieu. Et Dieu leur a confié plus de responsabilités. Le Seigneur confiera plus de responsabilités, plus de travail, plus de service, de ministère à celui ou celle qui est déjà en route avec Jésus, qui est déjà engagé dans l'œuvre avec lui. Cette personne pourrait même être appelé à participer dans une œuvre bien spécifique. Si vous voulez servir Dieu, mettez-vous en route. Ne dites pas à Dieu ce que vous ferez pour lui. Ce serait d'avoir une attitude d'insoumission, même de l'orgueil, un péché. Plutôt dites à Dieu que vous vous mettez à sa disposition pour faire ce qu'il voudra. Laissez Dieu vous former et faire de vous un instrument dont il aura besoin. Il sait déjà de quoi il a besoin. Vous voulez remplir ce que Dieu a, ce dont Dieu a besoin. Donc, activez-vous. Dieu ne vous demandera rien à faire pendant que vous ne faites rien pour Dieu. Dieu ne vous confiera rien. Par contre, si vous voulez que Dieu se serve de vous, mettez-vous à son service en commençant par les petites choses, comme les choses qu'on a mentionnées tout à l'heure, comme les dons généraux. Un verset qui m'a toujours interpellé est Genèse chapitre 24, verset 27. Dans l'hébreu, le texte dit, « Moi, étant en chemin, le Seigneur m'a conduit. » Moi, étant en chemin, le Seigneur m'a conduit. Frères et sœurs, il faut être en chemin avec le Seigneur. Il faut être en route avec lui pour qu'il puisse vous guider là où il veut que vous alliez. Vous savez bien combien il est plus facile de tourner les roues d'une voiture qui roule qu'une voiture qui stationne. Il y a enfin des services ou des ministères à plein temps. Divers ministère spécialisé, l'évangélisation, l'éducation, le pastorat, la mission d'implantation d'église. Divers services d'aide et d'administration et encore d'autres choses. Souvent, mais non pas toujours, un service chrétien à plein temps nécessitera le soutien financier de la communauté chrétienne. Pourtant, il arrive aussi que les pasteurs et les évangélistes se trouvent parfois obligés de travailler pour gagner leur pain. C'était le cas quand il fallait pour Barnabas et pour l'apôtre Paul, bien qu'ils avaient été appelés. Attention, il y a des qualifications bibliques à respecter pour être pasteur, diacre, missionnaire, évangéliste, etc. Le Seigneur se sert d'hommes et de femmes selon ses besoins, les besoins de Dieu, et selon les qualifications qui sont déjà écrites dans sa parole. Ces personnes sont sélectionnées parmi celles qui sont, comme je l'ai bien dit déjà, en train de servir le Seigneur dans leur vie de tous les jours. Tite voyageait avec Paul en évangélisant le monde romain. Paul l'a engagé à rester à Éphèse en tant que pasteur. Donc c'est dans le prochain quelques messages qu'on va focaliser sur l'appel au pastorat. Je me souviens d'un jeune qui achevait son stage de fin d'études en biochimie. Il aimait Jésus, il voulait être un bon mari chrétien, il voulait être un bon père chrétien, il témoignait de sa foi en Christ, il sortait pour faire l'évangélisation. Sa vie de scientifique était devant lui. Un jour, son pasteur lui dit que n'importe quelle personne pouvait devenir scientifique, mais que seulement le chrétien peut servir Dieu. Quelques temps plus tard, ce n'était pas le lendemain, hein, c'était quelques mois plus tard, ce jeune se donna au service chrétien à plein temps. Il est devenu missionnaire à l'étranger, puis éducateur chrétien et enfin pasteur chez lui. Dieu s'est servi de ce jeune parce qu'il s'était mis à la disposition de Dieu. Donc on va revoir un peu ça. Avez-vous déjà, question première, avez-vous reçu Jésus-Christ comme votre sauveur? Le Seigneur vous appelle, même maintenant en cet instant, au salut. Vous pouvez le recevoir aujourd'hui, tout simplement, par la foi. Jésus a dit, donc je vais lire, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Être sauvé signifie que vous avez accepté dans votre cœur le Seigneur Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour vos péchés et ressuscité d'entre les morts. Il est le chemin, la vérité et la vie. Être sauvé signifie que vous acceptez l'appel à marcher sur le chemin de Jésus. Ayant reçu Jésus pour votre sauveur, Dieu vous appelle, sans exception, à un ministère, un service, selon les conditions particulières de votre vie. Un service envers vos collègues, vos voisins, votre famille, votre conjoint non converti, mais aussi envers les frères et sœurs de l'Église. Que faire? Donc je dirais, déjà, lisez Tite chapitres 2 et 3 et mettez en pratique ces chapitres et puis laissez Dieu vous diriger. Efforcez-vous de développer un chrétien, un caractère chrétien et de vivre une vie chrétienne. C'est là que vous êtes en route avec le Seigneur. Donc voilà encore la question. Êtes-vous déjà en route avec le Seigneur? Êtes-vous engagé sur le chemin de Jésus qu'il a déjà tracé pour votre vie, hein, les bonnes œuvres afin que vous les pratiquiez? Êtes-vous apprenti, êtes-vous disciple de Jésus? Et puis, vous dites, oui. Êtes-vous prêt pour le prochain chemin, pour la prochaine étape? Hein, parce que peut-être Dieu voudrait vous utiliser encore autrement. Frères et sœurs, il y a des choses dans votre vie que vous ne pouvez pas changer, telles que votre sexe et votre race.
il faut reconnaître que cela est la volonté de Dieu pour vous. C'est dans ces circonstances même que Dieu vous a appelé et c'est ainsi que vous devez servir le Seigneur. Dieu a appelé Paul en tant que citoyen romain. Car Dieu avait besoin d'un homme de race juive, mais de citoyenneté romaine pour remplir les fonctions d'apôtre aux païens. Paul dit dans Romains 1:5 qu'il avait reçu son apostolat pour amener en son nom, au nom de Jésus, à l'obéissance de la foi, tous les païens. Par contre, il y a d'autres choses dans votre vie qui peuvent changer. Richesse, travail, nationalité, santé, etc. Acceptez votre situation actuelle. Servez Dieu là où vous êtes maintenant. Ça, c'est votre vocation actuelle. Mettez-vous donc vers l'avant en suivant Jésus, vers la prochaine étape de votre service auprès de la communauté chrétienne. Et en même temps, rappelez-vous qu'il y a besoin d'ouvriers, je veux dire ouvriers à plein temps, pour la moisson. Priez que Dieu vous donne, que Dieu nous donne, ici en France, même dans notre région, des serviteurs pour nos églises. Je voudrais terminer dans Romains chapitre 12, verset 1 à 3. Romains chapitre 12, verset 1 à 3. C'est un passage bien connu. On a déjà lu le verset 3, mais je vais mettre ça dans le contexte, verset 1, 2 et 3. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc, le mot raisonnable, c'est le mot logique. Ne vous conformez pas au siècle présent. Donc, cette phrase-là résume Tite, chapitre 2 et 3. Okay? Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Là, on fait par la parole de Dieu. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous, de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Dieu a un plan pour votre vie, et j'espère que vous êtes disposés à la disposition de Dieu pour remplir ce plan.